Ouais, salut Daniel, salut à tous. Bah, je viens d'apprendre que maintenant les chômeurs sont censés accepter des offres valables d'emploi. Non, plus valables, raisonnables. Alors pourquoi pas appliquer ce beau principe au reste des secteurs de la vie, accepter une offre raisonnable d'alimentation. Il y a certains pays où on mange des galettes d'argile, donc on va pas demander quand même à manger de la viande tous les jours. Et puis les pauvres qui nous coûtent cher aussi dans le domaine du logement, alors pourquoi pas accepter des offres raisonnables de logement, je veux dire une petite cave, un dessous de cage d'escalier, un pont bien abrité. Ça peut faire l'affaire. Et puis, en définitive, ce qui coûte le plus cher, c'est quand même la santé. Donc, il va falloir que tous ces gens qui ne travaillent plus acceptent une offre raisonnable d'espérance de vie. Je pense qu'à partir de 50, 55 ans, quand on trouve pas du boulot, il faut quand même pas espérer aller vivre jusqu'à 100, 110 ans. Ah, soyons raisonnables. Bonne journée.
Que le monde est bien fait. Vive l'anthropologie vivante. Alors, un jour, Chirac ouvre le musée des arts premiers. Il rentre dedans. Moi, naïvement, je pensais qu'il était toujours, comme chef totem de l'ancien petit peuple du RPR. Je pensais qu'on avait juste à lui payer ses nombreuses retraites défiscalisées et qu'on en était enfin débarrassé. Pas du tout. Quelqu'un a dû laisser une porte ouverte, mais le chi, comme un sortilège, est ressorti de sa léthargie presque centenaire et est revenu. Alors, pas pour calmer son successeur, pas pour passer devant un tribunal, comme il aurait dû le faire depuis longtemps, pas pour rendre l'argent de ses frais de bouche, pas pour retrouver la mémoire concernant sa gestion de Paris, non, il est revenu pour sauver le monde. Lui qui n'a pas cessé les essais nucléaires, qui a permis aux agriculteurs, aux industriels, l'emploi de millions de tonnes de produits indigestes, lui qui n'a pas arrêté ni les PCB à la source, ni le nuage de Tchernobyl aux frontières, le voilà donneur de leçons avec sa fondation subventionnée. Et tout le monde le remercie de vouloir sauver et nourrir les petits peuples. C'est vrai qu'avec toutes les casseroles qu'il a soigneusement collectionnées, il pourrait en nourrir du monde. Mais pour l'instant, c'est toujours Raffarin qui l'engraisse. Ah, que le monde est bien fait. Voilà, c'était une pensée de Pascal de Lyon.
Donc c'est à propos de la grogne. Ça grogne, ça grogne. Donc le verbe grogner dans le Robert, c'est pousser son cri en parlant du cochon, ou alors manifester son mécontentement par de sourdes protestations. Voilà, l'autre jour, les journalistes, je crois que c'est de l'AFP qui manifestaient, ils manifestaient leur colère. C'est pas pareil. Eux, ils ont de nobles sentiments. Et le peuple, ben, il a un gros 1. Bon, ben, bonne journée. Vive la grogne.
Oui, bonjour Daniel. Voilà, comme Sarko s'occupe de tout, il s'occupe de nommer les directeurs en télévision, de changer les journalistes à TF1 et de nous couler le service public, ce serait peut-être une bonne idée s'il faisait aussi sélectionneur de l'équipe de France. Bah, vu la prestation d'hier soir, il a toutes ses chances en tant que sélectionneur. Hein.
Alors, je pense que nous sommes tous très proches de nos amis irlandais. J'ai vu ce soir leur slogan pour voter non contre le référendum, contre le référendum, contre le traité simplifié de Lisbonne. People against profit. Hein, le peuple, pas le profit. Bon, ça vous rappelle tous quelque chose. Je pense qu'on devrait en parler davantage et puis peut-être essayer de leur envoyer notre soutien. Chapeau bas aux Irlandais et merci Daniel pour cette émission du diplôme qui, comme toujours, était passionnante aujourd'hui. Au revoir, à demain.
Ah, merci chère auditrice, chère AMG, mais je vous arrête. En Irlande, 95% du monde politique est favorable au oui. C'est un peu comme en France, en mai 2005. Et d'ailleurs, en Irlande, je cite... Les arguments du oui sont logiques et pragmatiques, mais ils auront du mal à dissiper les peurs attisées depuis 6 mois déjà par les partisans du non. Fin de citation, c'est au moins ce que l'on pouvait apprendre ce matin sur France Inter.
France Inter, 8h10, l'Irlande va-t-elle faire trébucher l'Europe et anéantir le traité de Lisbonne? C'est tout l'enjeu, vous le savez, du scrutin de demain. Seul référendum organisé chez les 27, tous les autres pays ayant choisi la voie parlementaire. L'Irlande, où la campagne s'est achevée hier soir, les électeurs ayant droit à une journée de réflexion avant le vote de demain. Elle s'est achevée, cette campagne, sur un triple appel, les chefs des trois principaux partis politiques ayant tour à tour supplié leurs concitoyens de voter oui à Dublin, Hervé Amorik.
À travers le pays, deux anciens premiers ministres, deux douzaines de ministres et des centaines d'élus se sont pressés toute la journée de débats en conférence. 95% du monde politique irlandais martèle le même message. Ce traité est bon pour l'Irlande et bon pour l'Europe. Les arguments du oui sont logiques, pragmatiques, mais ils auront beaucoup de mal à dissiper les peurs attisées depuis 6 mois déjà par les partisans du non. De plus, dans un climat économique maussade, la classe politique irlandaise n'est pas à l'abri d'un vote sanction anti-establishment. Dublin, Hervé Amorik, France Inter.
Voilà, rendez-vous demain pour les résultats de ce vote irlandais. Aujourd'hui, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner. C'est une phrase entendue dans un film. Dans un film qui fut produit dans les années 70, au début des années 70, par un groupe qu'on a appelé le groupe Metvedkin, qui était un groupe de cinéastes et d'ouvriers de... D'abord c'était à Besançon, puis ensuite à Sochaux, Peugeot. Aujourd'hui, on retourne à Sochaux à l'occasion du 11 mai 1968 qui est célébré aujourd'hui dans cette ville. À 16h, un peu après 16h, il y aura une commémoration. Commémoration de cette journée très très particulière qui, on l'a un peu trop oublié, mai 68 ne s'est pas arrêté. Mais en mai 68, ça a continué en juin, et ce jour-là, en particulier, ce 11 mai 1968, à Sochaux, fut une journée particulièrement tragique, une journée très, très particulière que nous évoquons aujourd'hui.
Eh bien, Daniel, eh bien, tous les amis de la Bastille-Suisse, notre cher PPDA, ça a dû lui faire du bien de savoir qu'il est menacé, parce que là, je viens de voir à l'instant un reportage bref, mais percutant. Sur les événements de Sochaux dont tu vas parler demain, et ce que je ne savais pas du tout, c'est que les photos prises par les ouvriers au moment de ces événements tragiques ont toutes été voilées. Donc je ne sais pas si tu vas nous en parler demain. Photos voilées, ça veut dire complicité des photographes, ça veut dire quoi? Ça veut dire intervention du ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est vraiment une sale histoire, et j'attends avec impatience ton émission de demain. Merci d'avance. Et bonne nuit à tous, à demain.
Bonjour à tous. Les amis du repère de Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, se réuniront ce mercredi 11 juin à partir de 18h30 à la pizzeria, 14 rue du Capitaine Dreyfus, Croix-de-Chavaux, métro Croix-de-Chavaux. Merci.
Ça commence à se savoir, hein, mais vendredi 13, c'est la grande journée internationale de la nuit à l'école. Les parents dorment à l'école, les parents occupent l'école. Contre les lois d'Arcos, contre les suppressions de postes, contre les programmes rétrogrades, contre la stigmatisation des élèves en difficulté, la suppression de la carte scolaire, etc., etc. Un exemple, les parents de l'école Vitruve, dans le 20e, à Paris, passage Jossaume, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, à 19h, un petit débat, on discute, on échange. 20h, un délicieux petit buffet. Voilà, super. 22h, on se passe l'an 01. Film utopique, bientôt interdit. Voilà, et après, bah, on fait un dodo citoyen à l'école. Mais ce qui serait vraiment bien, c'est que ça se passe partout dans les écoles, partout en France. Alors, il y a un site qui s'occupe de ça pour s'inscrire. Donc, c'est pas difficile à trouver. Vous allez sur Google ou sur Yahoo et vous tapez « Nuit, école, blog ». Vous allez trouver. Inscrivez-vous. Occupons-nous de l'école. À bientôt.
Oui, bonjour, Amaury du Nord. Je me permettais de vous appeler parce que j'ai réfléchi au problème que nous avons en France. Effectivement, tous les auditeurs ont l'air d'être tristes. Donc je vais leur expliquer. En fait, c'est que nous étions auparavant dans l'ère des 3 B. Boire, baiser, bouffer. Donc boire, bah, maintenant, malheureusement, on ne peut plus. Il y a des contrôles à Côte Est. Baiser, bah, il y a le sida. Et bouffer, ben, le panier de la consommation a énormément baissé. Alors, par rapport à ça, nous sommes tombés dans la mauvaise ère des 3 B, qui sont bosser, branler et bio. Alors, bosser, ben, effectivement, nous bosser plus pour gagner plus. Bon, on n'en voit pas de la couleur. Branler, parce qu'on est dans le monde du virtuel, donc faut bien trouver des solutions. Et bio, ben, on bouffe des trucs insipides qui n'ont pas de goût. Donc voilà, je vous demande de manifester en direction des 3 B qui sont boire, baiser, bouffer. Voilà. en espérant que j'aurai votre soutien. À bientôt.
Ici, mai 68, à Sochaux.
Le droit à la culture, c'est-à-dire l'incompréhension de la société dans laquelle nous vivons.
Enfin, comme disait, plus la classe ouvrière est, et ensuite, moins on peut la gouverner. Hein.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Antoine Chao à Sochaux, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner.
Flight number 2, arriving from New York.
Quand j'ai vu qu'il commençait à taper sur les ouvriers, tout ça, alors là, j'ai donné un coup de main, quoi, autant dire. Il faut les défendre déjà nos droits. On se battait contre les CRS, évidemment, mais c'était pas contre eux, autant dire. C'était contre le patron, quoi, le gouvernement, c'est eux qui les envoyaient, le patron, surtout Peugeot.
Ça, c'est sûr qu'ils sont aperçus maintenant que c'était une lutte politique aussi. Ils sont aperçus, bien maintenant, quand on discute avec des gars, que vraiment, le patron, c'est le gouvernement aussi. C'est les deux n'en font qu'un.
Les femmes, les vieillards, tout ce qui passait, ils tapaient dessus, ils demandaient rien. Même les voitures qui étaient garées, hein, c'est pourtant pas des êtres humains, ils tapaient dessus. Hein. Ils mettaient des grenades dans les portes et puis tout. Hein. Alors là, quand on a vu ça, c'était normal qu'on se défende. Hein.
On a beau être contre la violence, quand on se fait taper sur la gueule, c'était quand même pour défendre la classe ouvrière, quand même. C'était les ouvriers, quand même, qui étaient attaqués. C'était pas quand même...
L'histoire jette sa bouteille vide par la fenêtre. C'est Chris Marker qui dit ça quelque part dans un film. L'histoire jette ses bouteilles vides par la fenêtre. Et les médias font pareil. L'histoire immédiate jette immédiatement ses bouteilles vides par la fenêtre. C'est comme une succession d'ivresses. Les événements s'enchaînent et enchaînent. Nous sommes des médias holiques, des médias addicts, des ivrognes médiatiques. Chaque jour, sa dose, son adrénaline, sa médiamorphine, cul sec et hop, la bouteille vide par la fenêtre. 68, par exemple, prenons 68, vous vous souvenez, le 40e anniversaire de 68. Eh ben, c'est déjà sous la pile du dessous, à la benne, les rebelles, à la broyeuse, les anti-mai. Or, mai n'a pas fini en mai. Après mai, il y a eu juin, et en juin, il y a eu le 11 juin. 11 juin 68 à Sochaux, 2 morts, 152 blessés, fini la récré, fini la révolution romanesque, c'est du lourd. 2 morts, Pierre Bellot et Henri Blanchet. Qui se souvient de ces deux noms? 68, c'est Cohn-Bendit, c'est Goupil, c'est Kouchner, c'est Gessmar, les rebelles officiels, les rentiers du pavé, les renégats décorés. 68, c'est à la fois leur stock option et leur parachute doré. Mais Pierre Bellot et Henri Blanchet, morts pourtant, morts dans les affrontements avec les CRS ce 11 juin 68. Toute la mémoire de mai tient dans ce rapprochement. La mémoire étudiante tient le haut du pavé et les miettes pour le mai ouvrier. La plus grande grève de l'histoire sociale française, pourtant, on l'a dit et répété, sur 15 millions de travailleurs, presque les deux tiers étaient en grève, plus de 4 millions pendant 3 semaines, plus de 2 millions pendant 1 mois, aucun syndicat n'avait appelé à ces grèves. Mais les ouvriers en grève ont été gommés de la photo souvenir. C'est moins vrai. Il est vrai, cette année, pour ce 40e rougissant, je parle évidemment du drapeau, les ouvriers ont eu droit à venir boire un coup à la cuisine avant que l'on jette la bouteille par la fenêtre.
Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début, on marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, quand elle marche dans la rue, la colère, n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché, en plein mois de mai, la révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades, de la colère, quand elle unit des camarades, la colère, monte en barricade. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat.
À Sochaux, la semaine a été lourde. Les obsèques du jeune ouvrier Jean Bellot, qu'une grande foule a suivi, on rappelait la gravité des échauffourées qui ont eu lieu aux usines Peugeot après leur occupation par les forces de police. 2 morts, 67 blessés. Dans la métallurgie, la persistance des poches de grève s'est révélée dangereuse. Le secteur de l'automobile en particulier est demeuré sur le front social le point dur, le point névralgique. Les échauffourées de Flins avaient fait aussi une victime, Gilles Taupin, l'étudiant noyé dont les obsèques se sont déroulées à Paris.
Gilles Taupin, dit le confrère, alors que c'était Gilles Tautin. Jean Bellot, dit le confrère, alors que c'était Pierre Bellot. Pierre Bellot, Henri Blanchet, sont morts le 11 juin 1968 à Sochaux, et la veille, en effet, le 10 juin, à Flins, dans les Yvelines, aux usines Renault, dans des affrontements violents, c'est Gilles Tautin, 17 ans, militant maoïste, poursuivi par les CRS, qui meurt noyé dans la Seine. Remontons un tout petit peu en arrière, le 27 mai, les accords de Grenelle ont été rejetés par les ouvriers de Renault-Billancourt. Le 30, De Gaulle annonce des élections législatives pour la fin juin. 300 000 gaullistes manifestent sur les Champs-Élysées. La CGT appelle à la reprise du travail. Le 6 juin, le quotidien communiste L'Humanité salue la reprise victorieuse du travail. Malgré les efforts de la CGT, résistance dans la reprise, durcissement des grèves. Le 11 juin 68, il y a encore 1 million de grévistes en France. À cette époque, Peugeot, c'est 26 000 salariés, dont 21 000 ouvriers. En mai 68, Peugeot ne s'est mis en grève que le 20 mai. Un comité de grève s'est constitué avec un forum et des débats animés. Les jeunes ouvriers gauchistes ne parlent pas toujours la même langue que les syndicats qui ont déposé une liste de revendications classiques auprès de la direction. Oui, j'ai dit ouvriers gauchistes. Pas des étudiants, pas des intellos, mais des prolos, des OS, qui donnent du fil à retordre à la CGT, qui se limite encore une fois à des revendications classiques. Mais les revendications n'aboutissent pas. Le 8 juin, les syndicats font voter la reprise du travail. Le travail reprend le 10 mai. À la reprise, la grève reprend. D'abord, un noyau dur de récalcitrants. À 10h, la grève reprend à la carrosserie, à l'instigation de militants CFDT. À 15h, le 10 juin, 10 000 ouvriers votent la grève avec occupation. L'ordre d'évacuation est donné depuis Paris. La direction annonce que le travail reprendra et qu'elle enverra des cars de ramassage. Dans la nuit, entre 1000 et 3000 CRS et gardes mobiles prennent position à 3h du matin. Les CRS demandent l'évacuation de l'usine occupée. Pendant ce temps, d'autres unités de CRS envahissent l'usine et procèdent à l'évacuation des ouvriers qui occupent l'usine sans ménagement. À l'aube, les CRS occupent l'usine tandis que les ouvriers se retrouvent sur l'avenue, la fameuse avenue qui sépare l'usine en deux parties. Les provocations brutales de la police vont déclencher la riposte des ouvriers. À l'évidence, les CRS ont pour consigne de cogner sans entrave et sans rien s'interdire. Des barricades se dressent, les ouvriers entreprennent de reprendre l'usine et jettent des briques, des pièces d'acier, toutes sortes de projectiles sur le CRS. La bataille va durer toute la journée. Les ouvriers non grévistes soutiennent les grévistes. Les ouvriers qui arrivent par car viennent soutenir leurs camarades qui combattent. Des usines de la région débrayent. Pierre Bellot est tué de 3 balles tirées par un gradé. La police est déchaînée. Plus tard dans l'après-midi, Henri Blanchet, essoufflé par une grenade, tombe d'un pont et se fracture le crâne. Le soir, on dit que des hommes arrivent d'un peu partout dans la région avec des armes, des fusils de chasse. C'est un climat insurrectionnel. La police se livre à des exactions féroces, mais finalement, vers 21h, les CRS se replient et partent en crevant des pneus et en jetant des grenades offensives au hasard, au passage. Après le départ de la police, les ouvriers envahissent le bâtiment qui servait de QG à la police. C'est le club hôtel Peugeot où se retrouvent ordinairement les cadres et où la direction reçoit ses VIP. L'endroit est mis à sac. En fait, dans cette violence, il y a les provocations policières, mais il y a aussi une révolte profonde contre l'entreprise, contre les contraintes, les cadences, la domination, l'humiliation quotidienne, l'inhumanité de la chaîne et aussi, plus ou moins, contre les syndicats. Les patrons, Peugeot, évidemment, qui ont recours à l'État, à la violence de l'État pour réprimer et imposer l'ordre, son ordre. L'usine reste fermée jusqu'au 21 juin, date de la reprise, après que des concessions aient été faites aux revendications syndicales. Voilà ce qui s'est passé à ce jour-là et dans les jours qui ont suivi. Ça, c'est les informations, c'est le squelette de l'histoire. Il manque la chair de l'histoire et la voilà avec ceux que nous avons rencontrés avec Antoine, qui ont été les témoins et les acteurs de cette journée et de cette époque. On commence par Robert Huot.
Alors, qui suis-je? Je m'appelle Robert Huot, j'ai 63 ans, 64 cette année. J'ai adhéré à la CGT en mai 68. Depuis, j'ai été militant donc chez Peugeot, 40 ans. Et aujourd'hui, j'assume des responsabilités à la CGT. Je suis membre du Conseil national des retraités CGT et membre du Bureau national.
Très bien.
Voilà. Bon. Donc moi, quand les événements de 68 ont commencé, j'étais ouvrier chez Peugeot. Je n'étais pas syndiqué et je n'avais pas d'objectifs ni syndicaux ni de changement de la société. Quand les militants CGT-CFDT ont invité l'ensemble des salariés de l'usine à quitter l'entreprise, on m'a mis dehors. Voilà. Mon père ayant été tué donc dans la résistance en 1944 dans un maquis FTP, on fait que naturellement j'ai rejoint la CGT pendant les événements de 68. Donc le 11 juin 68, pour moi, il commence le 10 juin. À 11h du soir, mon épouse et moi, mon épouse enceinte de 8 mois et 3 semaines, nous passions à Sochaux et j'ai vu quelques copains peindre des slogans sur les murs, sur l'enceinte de l'usine, quoi. Alors le 11 juin 68, vers 7h du matin, je suis réveillé, donc, comme mon épouse, par mon jeune beau-frère, qui se rend à l'école Peugeot le matin et qui dit « on peut pas passer à Sochaux, ça se bat, il y a des grenades, il y a... bon, etc. » Et à ce moment-là, mon épouse me dit « je t'interdis d'aller à Sochaux, quoi. » Et sur le coup des 10h, 10h30, elle me dit, écoute Robert, est-ce que tu peux aller chercher une baguette de pain à la boulangerie? Alors je saute sur le caddie, c'est une espèce de mobilette là qui ressemblait un peu au Peugeot là. Et me voilà parti chercher la baguette de pain, je passe devant la boulangerie et je descends sur le coin. Et naturellement, donc, à 24 ans, n'ayant qu'une volonté, c'était envoyer des cailloux sur la gueule des CRS, pour le dire. Parce que pour moi, les CRS, ça représentait la Gestapo, ça représentait l'Allemagne nazie, ça représentait ça, hein, j'étais en pleine guerre, évidemment. Il y a eu un amalgame, là. Donc, j'ai avec d'autres, alors j'ai lancé des pavés. Quand ils partaient, que j'avais plus rien dans les mains, je m'attendais pas à les voir tomber. Je me taillais, hein, parce qu'à 24 ans, on court vite. Puis en plus, les autres, quand même, contre-attaquaient de temps en temps, quoi, hein. J'ai été de ceux, je le dis très honnêtement et je m'en excuse, qui ont insulté, je dirais, y compris les autorités politiques du pays de Montbéliard, qui nous invitaient à reculer et tout ça. Et nous, on n'avait qu'un objectif, c'était foutre des cailloux sur la gueule des CRS. Faut être honnête, hein. Bien qu'étant, je dirais, syndicaliste, hein, quand même, hein. Syndiqué à la CGT, quoi.
À la mémoire de Pierre Bellot et Henri Blachette, tombés pour le libre exercice du droit de grève. C'est une stèle plutôt discrète, même très discrète, sur une pierre, dans un petit square, un rond-point, face à l'une des entrées de l'usine Peugeot, où alors qu'il est, les gens commencent à se réunir pour la commémoration de cette journée qui aura lieu autour à partir de 16h. À Sochaux, donc. Là, on est avec Jean Cadet, qui, à l'époque, était technicien délégué CGT à la propagande CGT, et qui est un des témoins de cette journée. Jean Cadet.
Pierre Bellot était un jeune de 24 ans. C'était un professionnel. Il travaillait à un atelier d'entretien, un syndiqué CGT. Et malheureusement, c'est lui qui s'est trouvé dans la ligne de tir du CRS. Ça aurait pu être un autre, hein, puisque d'autres ont été blessés également, blessés à l'épaule. Hein. Il y a la liste qui est disponible dans un livre blanc. Plusieurs ont été blessés par balle. En fait, on évoque que le mort, Pierre Bellot, hein, par balle, mais il y a eu plusieurs salariés qui ont été atteints par des balles.
Pierre Bellot, il faisait partie de ceux qui occupaient l'usine ?
Non, il n'a pas occupé l'usine. Participer à la grève.
Enfin, il était dans la bagarre.
Il était dans la bagarre. Et sa femme ne savait pas, hein, puisque c'était un jeune marié, il avait un enfant en bas âge. Sa femme ne savait pas qu'il venait. Sa femme croyait qu'il venait simplement manifester. Et puis malheureusement, il s'est fait tuer.
Alors l'autre,
Henri Blanchet, lui, était un salarié plus âgé, 49 ans, qui travaillait à l'emboutissage aux presses.
Il n'était pas syndiqué, lui.
Il n'était pas syndiqué, lui. Hein. Donc, il était à proximité là du lieu où nous sommes, où il y a la plaque. Il était sur un muret. Il regardait, eh bien, les affrontements qui avaient lieu. Et une grenade offensive est venue exploser à ses pieds. Ça l'a déséquilibré et il est tombé de son muret et s'est fracturé le crâne. Et il est mort donc suite à la chute, mais une chute provoquée par l'explosion d'une grenade.
D'accord, deux gars, et puis 150
blessés, dont au moins une vingtaine grièvement.
À tous ceux qui s'interrogent sur l'origine du mouvement ouvrier, à ceux qui demandent pourquoi le drapeau rouge flotte au-dessus des usines occupées, quelle est sa signification? Ces quelques semaines de lutte, et surtout cette journée du 11 juin 68, apportent une réponse. Le mouvement ouvrier, depuis son origine, s'est peu à peu gravé dans l'histoire. Chaque conquête de la classe ouvrière sous ses ennemis de classe a coûté beaucoup de larmes, beaucoup de peine et de sang. Sang d'ouvriers versés généreusement pour qu'enfin quelque chose change. Si le drapeau est rouge, ce n'est pas par hasard. Il l'est du sang versé par les ouvriers et souvent jusqu'au sacrifice suprême. Pierre Bellot est un de ceux qui s'inscrivent dans cette longue, très longue liste des victimes de ce combat.
Vous étiez là, vous, ce jour-là ?
Non, j'étais pas là parce que...
De nous présenter.
Alors, madame Marion,
femme au foyer à l'époque et donc qui a regardé les événements de Valentinier les Buis.
C'est une jupe qui a été construite dans les années 60. Et là, j'avais 3 enfants en bas âge. Alors, je ne suis pas descendue à Sochaux. Mon mari est allé, on est venu. Pour une fois, il était venu dormir à la maison parce que les piquets de grève étaient assez nombreux par rapport à ce qu'ils avaient été pendant un mois de grève. Et là, le matin, très tôt, un copain est venu lui dire « Ça y est, les forces de l'ordre sont à Sochaux. » Or, il est parti directement. Et depuis les Buis, qui est sur une colline environnante, on a entendu toute la journée les jets de grenades. On voyait l'hélicoptère. Alors, j'avais un gamin de 2 ans qui était tout content de voir l'hélicoptère.
Bah, c'est joli.
Hein, oui, c'est joli un hélicoptère, mais moi, je savais qu'il manœuvrait les CRS. Alors, dans la matinée, le bruit a couru qu'il y avait eu un mort à Sochaux. Et les gars du quartier, qui étaient tous des ouvriers de Sochaux pour la plupart, parce que 80% des logements étaient réservés à Peugeot. Ils ont dit, on ne peut pas laisser faire ça, et on va venger notre copain. Les voitures étaient remplies, et les gars sont descendus. Et on avait un voisin qui était ancien légionnaire, qui nous a dit, moi, ils m'ont appris à lancer les grenades, je vais leur foutre sur la gueule. Et c'est vrai que toute la journée, lui, il rattrapait les grenades, il les renvoyait sur les CRS, parce qu'il avait appris ça dans la Légion. Et toute la journée, les gens ne sont pas revenus. Bon, la grève, les gens l'ont des fois plus ou moins subi, parce que quand même, c'était des familles ouvrières, et bon, la paye n'était pas là. Mais quand on a su que les CRS, c'était quand même le coup de trop, et même les mères de famille qui n'étaient pas forcément pour la grève... On dit on peut pas laisser faire ça et ça ils acceptaient pas.
Parce que
et
votre mari lui était syndiqué, c'était.
Mon mari était syndiqué, il était déjà militant. Moi j'étais militante aussi. On était militant à la CFDT, CFTC à ce moment-là et après CFDT et on était militant. Moi je savais, j'étais pas rassurée ce jour-là, mais je savais que sa place était là-bas de toute façon.
Il rentre à quelle heure?
Oh je sais pas, vers 10h.
Soulagement.
Ah oui, mais enfin, dans la journée, un copain était venu me dire qu'il l'avait encore vu vivant.
Ici, mai 68, à Sochaux.
Alors, ce qui se disait, il y a deux choses qui se disaient dans la rumeur, c'est un, tenons bon, donc tenons bon devant les informations de reculer pour laisser partir les CRS. Nous, on ne voulait pas qu'ils partent. Hein. Enfin, c'est pas qu'on ne voulait pas qu'ils partent, mais du moment qu'ils étaient là, on voulait quand même leur envoyer des cailloux. Quoi. Hein. Et on avait comme information, donc, que descendaient du Haut-Doubs ou des villages limitrophes des voitures avec des armes dans les coffres. Mais ça, ça n'a jamais été vérifié. Hein. Donc ça, c'est un des bruits qui courait. Un deuxième bruit qui courait, qui nous incitait donc à continuer la bagarre, je dirais, excusez-moi du terme, hein, je ne m'entre guillemets, mais je ne produis plus qu'on était, c'était qu'on nous disait que l'Astom et Bulle de Belfort montaient nous prêter main forte. Et il y avait une troisième chose sur laquelle on résistait, c'est que se disait « on va à Pajol, on va à Pajol ». Alors aller à Pajol, c'était, eh ben ma foi, monter en masse, et tenter, je dirais, d'enlever les fusils à l'armurerie de Pajol.
Parce qu'il y a une armurerie à Pajol.
Bah, à l'époque, il y avait un régiment à Pajol, donc comme tout régiment, il y avait des armes, quoi. Alors, évidemment, là, je dirais, on était très divisés, parce que monter en Pajol, bon, il y en avait quelques-uns, et moi, j'étais plutôt de ceux-là qui disaient, attends, les gaillards, ils vont pas nous laisser prendre des flingues comme ça, quoi. Hein. À mon avis, on va se retrouver avec l'armée sur la gueule, ça, voilà, quoi. Donc moi, j'étais quand même pas trop de ceux d'aller à Pajol.
Des questions continuent de se poser sur cette journée, sur ce 11 juin 1968, à Sochaux. Un historien, par exemple, comme Nicolas Hatzfeld, qui est un des meilleurs sur cette question, se pose toujours une série d'interrogations. Comment expliquer la force de la riposte des ouvriers alors même qu'ils étaient venus reprendre le travail le matin? Comment expliquer une riposte aussi unanime face à la brutalité policière? Robert Huot a évoqué son père, FTP, Maquisard, et effectivement, on évoque
la résistance, on évoque le maquis. Et puis on évoque aussi la guerre d'Algérie. La plupart des hommes, des jeunes hommes qui étaient là, beaucoup d'entre eux au moins, avaient cette mémoire. Ils y étaient allés, et s'ils n'y étaient pas allés, ils avaient eu la peur d'y aller, en tout cas. D'où peut-être cette violence et d'où cette brutalité. Mais d'où venait l'ordre de cette répression? Pour les historiens, à l'évidence, l'ordre est venu de Paris, du gouvernement lui-même. Il fallait en finir et même éventuellement brutalement. Le pouvoir a-t-il vraiment chancelé sur ses bases? En 68, on s'interroge toujours. En tout cas, le pouvoir a eu peur et à Sochaux, il a décidé de frapper très fort. Un autre témoin et acteur de cette journée-là, Jean-Paul Gitta.
Jean-Paul Gitta, qui était syndiqué CFDT à l'époque, et qui appartenait beaucoup au forum, qu'on peut dire, de 68.
Alors, voilà. Gitta, on va se tutoyer. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on se connaît depuis hier, alors on se tutoie. T'étais où ce jour-là?
Alors moi, j'étais donc au building le soir, donc quand on a...
C'est quoi le building?
Bâtiment de la direction qu'on avait occupé, là où il y avait le drapeau Peugeot, qu'on avait descendu, etc., pour mettre le drapeau... Un drapeau rouge, hein, et on avait même essayé de mettre un drapeau noir, mais où le PC et la CGT avaient été l'enlever, quoi. Hein.
Ah, c'était... Drapeau noir, ça veut dire qu'il y avait des anards dans tout ça, il y avait quoi?
On était un peu anard quand même, un peu, si tu veux. On n'était pas contre, quoi. Hein. On avait été mettre un drapeau noir, on pensait.
Je
ne
vois
que...
pas Nicole Notta mettre un drapeau noir.
Non, mais non, bien sûr, non, mais d'ailleurs, on est bien d'accord. Si je me suis fait virer de la CFDT en 72, c'est bien des raisons de tout ça, quoi. Et donc, le soir du. Quand on a réoccupé l'usine, donc, on est en train de repenser comment on allait réorganiser, qu'on n'allait plus accepter le comité de grève tel qu'il était avant, hein, tenu par le PC, la CGT, enfin une partie de la CFDT, etc. Hein, c'était dans les forums le soir déjà qu'on a amené, on a osé amener la critique, quoi. Hein, on a osé contester leur hégémonie. On voulait parler de politique, on voulait parler de... Autant la CGT, par exemple, défendait la hiérarchie des salaires, l'échelle mobile des salaires, la CFDT, un salaire de progrès, un salaire de fonction, nous, on se battait pour une augmentation égale pour tous. Hein, pour essayer de démontrer aussi qu'en 10 ans, on pouvait rétrécir la grille hiérarchique, tu vois, si tu veux. Bon, on était un certain nombre à se battre là-dessus. Et si tu veux...
Vous étiez vu comme les gauchistes. Hein? Vous étiez vu comme les gauchistes.
Oui, ben, comme les gauchistes, quoi. Ils nous ont même appelé à un moment donné les Katangais, pour te dire, quoi.
C'est comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps sous les ombrages tout neufs du Pré-Catelan en fleurs un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. Tout ce que la presse française et étrangère compte de journalistes, de photographes et de chroniqueurs était convié par la Société des automobiles Peugeot à célébrer cette naissance. Prélude au lancement concessionnaire prévu 2 jours plus tard.
Approchez. C'est l'occasion unique, la chance de votre vie. Je suis là, je suis arrivé, vous étiez dans la stagnation, la misère, c'est fini. Non seulement je vous apporte la fortune, mais la gloire. Vous cherchiez du travail, je vous en apporte. Le plus beau, le plus noble, pour la plus grande gloire de votre famille, pour la plus grande gloire de la patrie, de la nation. Vous allez construire... Peugeot.
Voilà, c'est une archive extraite d'un film qui s'appelle Weekend à Sochaux, du groupe Medvedkin que j'ai évoqué, et où des ouvriers de Peugeot jouent leur propre rôle et écrit et tourné cette histoire. Alors on continue l'évocation de ce 11 mai 1968 avec Robert Huot.
À l'époque, dans les années 65-66, quoi, l'avenir d'un ouvrier du pays de Montbéliard, il ne pouvait être que chez Peugeot. Parce que sur les chantiers à l'époque, on travaillait 60 heures par semaine pour environ 550 francs, alors qu'on faisait 48 heures ou 49 heures chez Peugeot pour environ 900 francs. Quoi.
Ah oui.
À la chaîne et en doublage. Quoi. Alors évidemment, le beau-père, la belle-mère, la bourgeoise... les voisins de France et de Navarre ont fait que j'allais chez Peugeot, quoi. OS à la Peugeot.
Jusqu'au bout. OS jusqu'au bout.
Ah non, non, parce que j'ai passé un P1 en 1971. Donc, je suis devenu P1 au mois de janvier 1971. Comme ça coïncidait à peu près avec ma prise de responsabilité dans la CGT, je suis resté 29 ans sans un seul centime, j'insiste, sans un seul centime d'augmentation. Voilà, 29 ans dans la même catégorie professionnelle, au même niveau de salaire, quoi. Et j'ai été rétabli en 99 P3, donc, puisqu'on a été rétabli dans la courbe théorique qu'on aurait dû être, si on n'avait pas été syndicalement discriminé, quoi. Et je suis des 6, donc, des 6 premiers en France qui ont assigné un patron au tribunal pour discrimination syndicale.
Et vous avez gagné.
Et nous avons gagné. J'ai reçu une augmentation mensuelle de 1380 francs à l'époque, ce qui faisait quand même un sacré saut. Mais quand j'ai fait mon calcul complet de perte de salaire sur l'ensemble de ma carrière professionnelle, j'avais perdu environ 780 000 francs.
Quand on dit 68 ans, ah ouais, qu'on ne pense pas à des gens comme Robert Huot qui évoque là ce que fut et ce qu'est aujourd'hui la discrimination syndicale chez Peugeot. Peugeot n'a pas le monopole de la discrimination syndicale, ce serait trop beau, mais elle est particulièrement virulente et elle l'a été pour ceux qui avaient osé, ce jour-là s'opposer aux forces de l'ordre venues mater ces grèves. On retrouve Jean-Paul Gitta.
J'étais donc au building, là, donc, et on remettait en route tout. Et à 3h du matin, bon, paf, les flics nous ont virés là-dedans, Manu Militari. Et là, ils nous ont repoussés sur Sochaux. Et là-bas, on a monté une barricade. La première barricade, on l'a montée là-bas. Et là-dessus, bon, on a commencé à y foutre le feu, enfin, etc. Et puis, il y a même des gars qui avaient pris un bidon d'essence, je me rappelle, qui étaient assis sur la barricade. Et là, s'ils nous attaquent, je me fais sauter avec, quoi, tu vois.
Ouais.
Et après, donc, on a commencé à... Il y a un mec qui est rentré à la fonderie. Il avait percé le mur comme ça, puis il avait sorti des grands riblons, des bouts de ferraille qui faisaient à peu près 3-4 cm de diamètre. Et on les lançait. Alors, on les lançait aux flics. Une partie, les lançait en l'air, et puis une partie, les lançait au ras du sol. Parce que ceux qui étaient devant, quand ils voyaient, ils mettaient les boucliers comme ça. Hein, okay.
En l'air.
Ça, ils les prenaient dans les guibolles. Hein. Puis après, ils ont compris, ils baissaient là pour ne pas les prendre dans les guibolles, mais du coup, ils les prenaient sur la tête. Quoi,
la tronche.
Hein.
Ouais.
Ça pesait bien 300-400 grammes, hein, un bout de ferraille. Quand tu le prends sur le casque, ça doit quand même faire mal. Il y a quand même conduit être un peu gratigné, à mon avis. Hein. Et puis au bout d'un moment, donc, ça s'est un peu calmé. Et j'ai remonté toute la rue jusqu'au building, donc là où on a été viré le matin, pour aller rencontrer la direction. Alors là, je suis arrivé, il y avait tous les cadres qui étaient en bas du building, qui étaient réunis là. C'était Choulet à l'époque.
Choulet
qui était directeur à la boîte. Et moi, je suis arrivé avec mon blouson noir, ma casquette, enfin mon béret avec des journaux dedans, tu sais, par cause des matraques. On mettait des journaux dans le béret. Ça fait moins mal, tu sais, ça fait... Quand tu prends un coup de matraque, ça faisait pas... T'étais pas KO, quoi.
C'est le casque du pauvre.
Voilà. Et puis je suis monté en haut en disant que bon, il fallait faire quelque chose, hein, parce qu'il y a des mecs qui étaient prêts à s'immoler sur la barricade, etc. Et ils m'ont répondu, oui, mais c'est pas notre problème. Vous êtes en dehors de l'entreprise, nous on n'a rien à voir avec ça. Et puis bon, ça s'est terminé en cul-de-sac, puis je suis reparti. Et je suis retourné donc à la barricade. Bon, après la barricade a été défaite. Et puis après, donc on s'est accroché donc avec les flics qui étaient là-dessus, là, et on a dit ils étaient dehors un peu provoquants, puis on leur a foncé dessus, quoi. Mais on était, le peloton, on était quoi, une vingtaine, 25 à peu près, quoi.
Qu'est-ce que vous aviez comme arme à ce moment-là? Vous n'aviez pas d'arme? Rien
du tout. Les mains nues, quoi. On la gueule, quoi, tu vois. Et le mec, ils ont reculé, ils étaient 3-4 à reculer, et puis il y en a un qui, au dernier moment, il est tombé pratiquement sur le cul, enfin il a tiré à tir tendu comme ça, puis il y avait un poteau ici en bois, il y avait une balle d'ailleurs qui était encore, qui restait longtemps dedans. Et je pense qu'il n'y a pas eu qu'un flic qui a tiré, quoi. Il y a eu plusieurs flics qui ont tiré, quoi. Il y a eu d'autres balles qui ont été tirées. J'aurais dit que Bello est tombé. À ce moment-là, bon, il a été embarqué. Et puis, il y avait un 4x4 à l'intérieur. On a foncé sur le 4x4 pour essayer d'y foutre le feu, puis de prendre dedans. Il y avait des flingues et tout. Alors, on a sorti les fusils. Moi, pour ma part, j'ai enlevé les culasses et puis je les ai bénés pour pas qu'on les utilise. Mais des copains ont marqué des fusils complets, quoi. Il y avait des cartouches.
Les fusils des gardes mobiles.
Oui, qu'ils avaient laissés dans le 4x4 juste derrière la porte, là. Et eux, ils étaient tous rentrés dans le grand bâtiment là-bas. Après, on est ressortis de là, donc. Et puis après, bon, ça a commencé à s'affronter avec les. Bah, t'as vu les photos, il y a une moto qui brûle, là. Il y a un. Ça CRS, quoi, en moto, là, qui a failli être lynché. Ils ont juste pu le récupérer à temps avant qu'on. On avait déjà enlevé les ceintures. Il y en a déjà enlevé les ceintures pour le prendre. Enfin, tu vois, c'était. On était prêts à. Ah ouais, on était prêts à aller au bout, là. Il y en a un qui nous tombe dans les mains, le mec, il s'en relève pas, quoi. Ça, c'est clair. Quoi.
Oui, mais au bout de cette révolte, là, il y avait quoi? Vous aviez une idée de prise de pouvoir? Il y avait la révolution, la...
Ah ben, moi, j'y ai cru, gros. J'ai cru que tout allait changer, moi. Que la boîte, ça nous appartiendrait, qu'on serait capable de gérer, enfin, etc. Parce que peu de temps après, les élites à Besançon, hein, il n'y avait pas d'extrême, il n'y avait pas de gauchistes, il n'y avait pas d'intellectuels, il n'y avait pas d'établis, ils ont pris leur boîte. Hein, et ils ont fait leur mouvement, ils ont fait un forum permanent, si tu as suivi les élites. Nous, c'était déjà un peu le balbutiement, nous, qu'on a essayé de faire ici à Sochaux.
Oui, oui.
Hein, par rapport à ça, tu vois. Enfin, c'était déjà dans mon idée. Bon, j'ai partagé ça avec des copains, hein, on est bien d'accord, je suis pas tout seul. Mais pour ma part, je me suis engagé à fond la caisse dans ça, quoi.
À l'intérieur de l'UMM, c'est-à-dire de l'organisation patronale qui dirige la métallurgie, Peugeot occupe une place prépondérante. Il occupe une place prépondérante là, et dans le pays de Montbéliard, dans le territoire de Belfort, dans tout ce contexte industriel, Peugeot a aussi une place prépondérante. Et quand Peugeot lâche, quand Peugeot ouvre ses fenêtres et s'enrhume, tout le monde éternue dans la région. C'est ce qui explique de façon très rapide que, d'une part, la métallurgie au plan national avait une position très dure parce qu'elle représente un pourcentage très important de la masse des salariés et que Peugeot dans la région devait avoir une position très dure, d'autant plus dure que dans le passé, Peugeot s'était toujours fait une vaillance et une gloire de casser et de maîtriser à lui seul les conflits qui intervenaient à Sochaux.
J'étais donc au building, là, donc, et on remettait en route tout. À 3h du matin, bon, waf, les flics nous ont virés là-dedans, Manu Militari. Et là, ils nous ont repoussés sur Sochaux. Et là-bas, on a monté une barricade. La première barricade, on l'a montée là-bas.
Ah, comment s'est finie cette journée?
Comment elle s'est finie? Eh bien, elle s'est finie qu'après, bon, il y a eu une grosse bagarre. Après, la bagarre s'est tenue ici, sur le passage ici. Et puis, ils nous ont repoussés petit à petit en ville. Ils nous ont repoussés en ville. En fait, on s'est enfilé dans ces trucs en bois, là. Ou Blanchet qui était sur un mur au bout, pareil. Là ici, il y avait le mec qui a eu une des jambes coupées. Puis là, il y a comme bon, des gars qui ont commencé à venir avec des flingues et des fusils de chasse, enfin, etc.
Là, il y a des gars qui sont descendus avec des flingues et des fusils.
Oui, il y a déjà des gars qui étaient de l'autre côté de la voie ferrée avec des fusils là.
Et puis ça s'est arrêté.
Alors on est arrivé sur la voie ferrée, et puis c'est là qu'ils ont eu l'ordre de rentrer. Alors ils ont mis 4x4, enfin en rang, et puis ils sont rentrés, puis nous on les a accompagnés. En leur crachant dessus, en gueulant, enfin, tu vois, ils sont rentrés tout droit, quoi, hein, jusque dans le cercle d'hôtel. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une espèce de truc où les mecs ont dit on va aller dilapider le cercle d'hôtel, c'est-à-dire piquer enfin, tout ce qu'il y a dedans, quoi. Et moi, je crois que j'étais un de ceux qui disaient non, on n'y va pas, on y fout le feu. On va pas piquer, on n'est pas des voleurs, on est. Hein,
on y fout le feu.
On y fout le feu parce que c'est le symbole de la puissance de la boîte, quoi, enfin, c'était pour moi. Et finalement, quand j'ai vu que les mecs rentraient là-dedans et puis qu'ils allaient piquer un tatou, moi j'ai pris mes clics, mes claques, puis je suis rentré chez moi.
Toi, c'était le feu ou rien?
Moi, c'était fini, là. Moi, je suis rentré chez moi, là. Voilà.
Puis c'est de là que une explosion qui s'est produite, hop, je me suis retrouvé en l'air, les quatre fers en l'air. Puis au moment de me relever, plus de pied. Je me suis aperçu que j'avais plus de pied. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevé quand même, puis je suis parti sur une patte, en sautant. J'ai fait jusqu'au feu rouge, là, jusqu'au feu de la bretelle, quoi. Il y avait une quinzaine de mètres. Et puis de là, j'ai refait encore un autre coup, une explosion. Ils nous ont renvoyé encore une gilet. Alors j'avais des éclats partout. On avait la région, on pouvait ce qu'il y avait là.
Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que les CRS bon, ont été appelés à intervenir vers 2h30 du matin.
Gilbert Marion.
Les travailleurs de chez Peugeot étaient appelés au travail pour 4 heures. Hein? Peugeot avait rappelé les gens au travail. Et quand les bus sont arrivés, c'est vrai que pour les CRS, bon, les bus arrivent, que ce soit des grévistes ou non, les gens ils ne savent pas, ils ont grenadé effectivement les gens qui sortaient des bus. Hein? qui allaient au travail. Ce qui a effectivement fait que la journée, les gens se sont retrouvés de plus en plus nombreux.
Tu vois, les mecs qui descendent du bus et que leur sac pour prendre le boulot, qui prennent des grenades dans la gueule, les mecs posent le sac et puis ils y vont, quoi, tu vois.
Est-ce que ça a été délibéré que Peugeot appelle au travail le matin où les CRS sont intervenus? Il y a deux questions. Ils ne s'attendaient pas à une résistance comme ça et ils pensaient que les piquets de grève allaient être liquidés avant 4 heures, donc les gens pourraient prendre le travail normalement. Ou alors, ils se disaient, ça va résister et effectivement, les gens, quand ils vont arriver, il va y avoir un vrai pataquès. Parce qu'il y avait les élections législatives quand même qui devaient se passer quelques temps après. Et le fait de la violence comme ça, est-ce qu'en définitive, ils ne pensaient peut-être pas que ça pourrait servir leur camp, hein?
En célébrant ce 11 juin 1968, on pourrait croire qu'on est un peu dans une queue de cortège, une queue de manif, un genre de baroud, d'honneur qui a précédé la paix des braves, c'est-à-dire les élections législatives des 23 et 30 juin 1968. Mais en vérité, dans ce 11 juin 68, on peut voir le tout début de la contre-révolution néolibérale, violente, très très violente d'abord, qui sera par la suite, peu à peu, trouver des moyens beaucoup plus cool. Elle sera captée et diriger la contestation vers la consommation. Le profond élan libertaire sera domestiqué et associé au libéralisme. Une chose à noter, c'est que le 11 juin, le soir du 11 juin, à Paris, ce fut une des nuits d'émeute parmi les plus violentes de mai-juin 68, au cri de élection trahison. Nous sommes tous des enragés. Et c'est une manifestation si violente qu'on disait que des agents provocateurs, casseurs étaient dans les manifs. Hypothèse toujours avancée et jamais démontrée, très rarement. Il y eut cette nuit-là 266 blessés et 1500 arrestations. Mais revenons à Sochaux pour une conclusion avec Robert Hulot.
Moi, quand ça s'est fini, c'est-à-dire que quand il n'y a plus eu, je dirais, d'adversaire en face, hein, moi, parce que je vais quand même continuer de parler de mon histoire à moi, donc le combat a un peu cessé, faute de combattants, donc je suis rentré chez moi, et j'ai repris ma mobilette que j'avais planquée, là, à peu près du côté du stade Bonal, un peu dans ces coins-là, et alors là, c'est un peu folklorique, quoi, c'est-à-dire que ma belle-mère et mon épouse ayant tellement entendu d'atrocités sur les chaînes de radio, eh bien, finalement, à 8 jours d'accoucher, il dit, je vais quand même aller récupérer le gaillard à Sochaux, quoi. Hein? Et arrivant vers le DF à Etube, donc, je vois une femme arriver de très loin, en vélo, femme enceinte, hein, de 8 mois et 3 semaines.
En vélo.
Arrivée en vélo, elle était venue aller en vélo, parce que moi, j'avais pris la mobilette, quoi. Et bon, je l'ai vue faire des grands gestes, voilà. Et à ce moment-là, j'ai repris le vélo, et la mobilette, et je me suis fait engueuler jusqu'à la baraque, quoi. Et c'est comme ça que c'est terminé, moi, mon juin 68.
C'était un garçon ou une fille?
C'est une fille.
Qui a 40 ans
aujourd'hui. Voilà, qui est infirmière chez les pompiers à Montbéliard, syndiquée CGT. Voilà. Je n'ai jamais fait du
Bravo, Robert. Bravo, Robert. Ben non, il n'y a pas de bravo.
Merci à tous. C'était un reportage avec Antoine Chao. Merci à Christian Corrouge, qu'on retrouvera demain. Merci à Bruno Muel, à l'ISCRA, à Robert Huot, Nicolas Hatzfeld, l'historien, Gilbert Marion et Madame Marion. Merci à Bruno Lemaire, Michel Pialou, Stéphane Beau, Jean Cadet, Gérard Deneux, Jean-Paul Gita, Christian Driano, qu'on retrouvera demain, et Jacques Livchin et son théâtre. À voir absolument les films du groupe Medvedkin de Besançon et de Sochaux, disponibles en DVD aux éditions du Montparnasse. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, et vous pouvez en profiter pour tout savoir, tout apprendre sur la façon de devenir un souscripteur de Chomsky et compagnie, le DVD qui va être envoyé aux souscripteurs. Vous avez jusqu'au 18 juin, c'est une date ça, 18 juin, c'est fameux cette date, pour souscrire encore à la technique aujourd'hui. Mathieu Ribaud et Julien Chabassu, Yann Chouquet et Koyen Nguyen ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Humbert qui attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Demain, avec un certain nombre de ceux qu'on vous avez entendu aujourd'hui, eh ben on évoquera depuis, parce que ça c'était une journée très particulière. La commémoration va commencer dans quelques minutes à Sochaux. Mais demain, on reviendra un peu sur ce qui s'est passé depuis 40 années. C'est long, mais on aura des éclairages particulièrement pertinents. Il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Michael Thébault. Salut.